les deux téléphones déclenchent les mêmes bornes. Ce qui veut dire que les deux hommes étaient probablement ensemble ou se suivaient.
Les deux portables ont donc suivi le même itinéraire. Et pire encore, ils bornent au même moment sur le lieu du crime.
À Vallée-Bersin, la zone où on découvre le corps.
C'est-à-dire que là, vraiment, c'est accablant pour Kevin. Il est le suspect numéro un.
Décembre 2013, la nuit est tombée depuis longtemps sur la zone artisanale de Folchwiller, près de Metz. C'est ici que se trouve la boulangerie industrielle Neuhauser, où travaille ce jeune homme de 27 ans, Carmelo Castronovo. Ce soir-là, l'homme quitte son poste à 22h. Il a hâte de retrouver sa compagne, Déborah, enceinte de leur premier bébé.
Il a ses habitudes, il sort à 22h, petit texto pour dire à sa compagne « je pars ».
Elle m'envoie un SMS en me disant « j'arrive mon cœur, je t'aime ». Et de là, il faut 20 à 25 minutes de route avant d'arriver à la maison.
Mais Carmelo n'arrivera jamais à destination.
Elle est paniquée parce qu'on lui annonce des faits extrêmement graves.
C'est pas lui qui parle, c'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre. Mais après, à savoir qui...
Et à 1h50, le téléphone est définitivement coupé. Il ne sera plus jamais rallumé.
Je savais qu'il était arrivé quelque chose. Je le sentais au plus profond de moi.
On craint le pire.
Il a l'arrière du crâne littéralement défoncé.
On n'avait pas le droit de le voir, le corps.
Il l'a traqué, il l'a suivi.
C'est un scénario qui fait plutôt penser à un guet-apens.
Voilà, ma fille ne connaît pas son père.
À presque 30 ans, Carmelo Castronovo vit encore chez ses parents, avec toute sa famille. Et chaque soir, tout ce petit monde se retrouve pour le dîner sacré.
C'est une famille d'Italiens, ils sont très unis et le repas est quelque chose d'important dans cette famille. Et donc on attend l'arrivée de Carmelo pour se mettre à table.
À 22h50, le repas est prêt, mais Carmelo n'est toujours pas là.
Le soir du 4 décembre, il faisait très sombre. C'était vraiment une nuit noire avec énormément de brouillard, du brouillard très épais, on voyait rien. Il avait un peu gelé. J'ai vu qu'il avait du retard. Au départ, je pensais que justement, à cause des conditions en météo, il avait un problème sur la route. Peut-être que ça glissait, il devait être plus prudent.
Déborah envoie un SMS à son fiancé pour savoir où il se trouve.
Un problème sur la route ?
La jeune femme commence à s'impatienter. Mais 5 minutes plus tard, la réponse arrive.
Un problème de dernière minute. Je te dis quand je viens. Je suis au bureau, au village.
Alors le village, c'est le centre administratif de l'usine.
Et on appelle ça le village parce que ça se trouve dans le village.
Mais les bureaux, ils ferment à 17h, donc...
Et ça, Déborah le sait puisqu'elle a travaillé à l'usine.
On trouvait ça vraiment bizarre.
Donc là, elle se dit qu'il y a un problème et que cette excuse du village, elle n'est pas tenable.
Si les bureaux sont fermés, où peut bien être Carmelo ? Sa famille commence à s'inquiéter. Ce retard ne lui ressemble pas.
Elle devait venir direct au travail. Jamais aller quelque part, boire quelque chose, jamais. Au fini du travail, on était tous à la maison.
Voyant qu'il ne rentrait pas du travail, du coup je me stressais et je m'angoissais. Plus des SMS qui étaient bizarres.
Inquiet, le père et le frère du jeune homme décident de partir à sa recherche.
On a fait le même trajet qu'il faisait Carmelo. On est allé au village. On ne voyait rien, on a fait tout le tour, on n'a pas vu de voiture.
Aucune trace de Carmelo, que ce soit sa voiture sur parking, que ce soit sa présence dans l'usine ou aux alentours de l'usine.
En désespoir de cause, les deux hommes décident de parcourir les routes des environs.
Ça dure, on va dire, une bonne heure. Ils cherchent, ils voient rien. Cette nuit-là, il y a un épais brouillard sur tout le secteur. Très compliqué de voir quelque chose.
On n'a rien vu, toujours rien. On a téléphoné à Déborah, on ne voyait pas. Camelot n'est pas là, on ne voit pas de voiture.
Là, c'était l'angoisse. Les minutes paraissaient des heures. Parce qu'on ne comprenait vraiment pas ce qui nous arrivait. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui?
Et Déborah est très inquiète et ça va lui déclencher des contractions.
Paniquée, Déborah prévient son fiancé.
Je lui envoie un SMS pour lui dire que j'avais des contractions, que c'était pas normal et qu'il fallait aller à l'hôpital pour voir si tout allait bien.
Mais contre toute attente, Carmelo garde le silence. Un long silence qui va durer près de 35 minutes.
Et ces 35 minutes vont lui sembler une éternité. Et elle se sent totalement abandonnée. L'homme qu'elle aime, le père de son enfant, ne répond pas à ce texto qui est un appel au secours.
C'était long et plus ça mettait du temps à répondre et plus les contractions devenaient violentes et rapprochées. Et que j'arrivais pas à me calmer, quoi.
Au bout de ces interminables minutes, Carmelo sort enfin de son silence.
Et là, la réponse est effrayante. En tout cas, c'est la réponse qu'aucune femme enceinte ne veut lire un jour sur son téléphone portable.
J'avais une réponse en disant qu'il n'était pas prêt pour ça.
J'ai bien réfléchi. Je ne suis pas prêt pour ça. Je pars dans une autre région. J'ai un autre travail.
Qu'arrive-t-il à Carmelo? Le futur papa fait-il machine arrière? Il faut dire qu'entre Déborah et lui, tout est allé très vite. Carmelo et Déborah se rencontrent en mai 2012. Ils travaillent dans la même entreprise.
Moi, j'étais à l'emballage et lui, il était au pétrin. Donc c'est là où on a commencé à avoir les affinités, à parler, à rigoler. C'était comme si on était une seule et même personne, tous les deux. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu... Ouais, c'est pas trop de mots pour décrire, en fait, la relation qu'on avait tous les deux.
Mais il y a un problème. Déborah est déjà en couple et son compagnon de l'époque travaille, lui aussi, chez Neuhauser.
Je vivais encore dans l'appartement avec mon ex, mais on était déjà en froid. Ça allait déjà plus.
La jeune femme quitte donc son compagnon pour Carmelo. Et tout s'accélère.
Ils vont s'installer ensemble très vite. Ils se rencontrent en août et ils s'installent ensemble en novembre. Ils s'installent chez les parents de Carmelo.
8 mois à peine après leur rencontre, Déborah apprend qu'elle attend un enfant.
Et le 4, en fait, on s'était fiancés, le 4 juin. Et ouais, on a découvert la grossesse le 5.
La vie en commun, les fiançailles, le bébé à venir. Carmelo a-t-il pris peur?
Il ne connaît pas grand-chose de la vie, finalement. Il a travaillé très jeune, il a travaillé beaucoup. Il est toujours resté vivre chez ses parents. Il n'a jamais eu véritablement son indépendance. Ça va peut-être un peu vite pour lui.
Il nous l'a présenté, mais ça a été trop vite, je ne sais pas, moi. Pour moi, ça a été trop vite, ça.
Seulement Déborah, elle, n'arrive pas à croire que Carmelo, son compagnon, ait fait volte-face.
C'est pas possible. C'était un papa, futur papa plus qu'heureux. Hein. Il a jamais loupé, ne serait-ce qu'une simple prise de sang, quand je vais faire la prise de sang de contrôle, il a jamais loupé ça. Prise de sang, échographie, a toujours été présent. Il a jamais loupé un seul rendez-vous.
Bah oui, il était fier. Il était trop fier. Elle était tout content, elle était fou.
Tout laisse penser que Carmelo était donc un futur papa comblé. Et puis ses parents l'attestent, le jeune homme avait des valeurs, il n'aurait jamais abandonné les siens.
Et il ne pouvait pas faire un truc comme ça, c'est pas possible. C'est pas mon fils, ça. Moi, je connais mon fils qui n'a jamais fait ça. C'est pas normal, ça.
Jamais il serait parti dire à ses parents que je pars droit à gauche, c'est pas possible. Je le crois pas, parce que je le connais, Carmelo, non, non.
Non. La bonne... Il ne ferait jamais ça.
Il vient d'un clan familial. À partir du moment où il intègre Déborah à sa famille, où il la présente, où elle vit à la maison, elle fait partie de la famille. Elle attend son enfant, donc elle fait partie de ce clan-là. Et on respecte les membres de sa famille, on a une loyauté envers eux, et on ne les abandonne pas comme ça, en un claquement de doigts, juste parce qu'on a peut-être plus de sentiments ou parce qu'on a envie de changer de chemin.
Déborah en est persuadée. Il est arrivé quelque chose à Carmelo. Ce n'est pas son fiancé qui lui envoie ses SMS.
Le dernier texto qu'il va lui adresser en quittant son travail, c'est un texto lui indiquant « Je t'aime, j'arrive à la maison ». Donc c'est assez étonnant que quelques minutes plus tard, il envoie un texto qui soit complètement différent.
Au moment où il a dit « Je suis pas prêt pour ça », non, je me doutais, je fais, c'est pas lui qui parle, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre. Mais après, à savoir qui, sur le coup, on avait mille questions, on disait c'est pas possible.
Paniquée, la jeune femme contacte la gendarmerie. Il est minuit 45 lorsque les gendarmes de Gros-Tanquin se rendent chez les Castronovo. Ils ont face à eux une future maman angoissée, rongée par le doute.
Elle prétend effectivement qu'il ne peut pas s'agir de Carmelo, que c'est pas lui qui écrit ses SMS, tout simplement parce que c'est pas sa façon de rédiger. Et elle nous déclare qu'elle est vraiment bien dans son couple, qu'elle est heureuse dans son couple, que lui, effectivement, il attend avec impatience l'arrivée de l'enfant. Donc, a priori, c'est un tableau idyllique qu'elle nous dresse de leur couple.
Alors, Déborah refuse-t-elle d'admettre que son fiancé veut la quitter ? Ou est-ce que son intuition est la bonne ? Est-ce vraiment Carmelo qui lui envoie ses messages ? Pour le savoir, il n'y a qu'une solution. Elle doit absolument identifier sa voix.
On demande à Déborah qu'elle lui envoie un SMS en lui disant que nous, on va le contacter directement sur son téléphone et que ça serait un appel vraiment entre nous. Donc elle lui envoie et il dit que de toute façon, il ne répondra pas au téléphone. Donc nous, on va quand même l'appeler à plusieurs reprises sur le portable. Effectivement, il ne répondra à aucun moment.
C'est vrai que c'est assez surprenant d'envoyer des messages écrits mais de refuser tout contact vocal.
Les gendarmes tentent alors une autre approche.
Ils élaborent avec elle le type de message qu'elle pourra envoyer pour avoir une réponse et savoir si c'est vraiment Carmelo qui est au bout du fil ou si quelqu'un a le téléphone.
On lui demande tout simplement qu'elle lui pose une question, entre guillemets, que elle seule ou bien un membre de la famille pour avoir la réponse.
Dans un des textos, il demandait le deuxième prénom de petit frère à Carmelo, qui s'appelle Kevin. Donc dans le texto, ça disait, quel est le deuxième prénom de Kevin. Et la réponse, au lieu de donner la bonne réponse, il disait que c'était pas le moment de répondre à ça.
Les enquêteurs trouvent cette attitude de Carmelo de plus en plus étrange. Mais un dernier texto va venir balayer leurs doutes.
La dernière réponse que j'ai eue du téléphone de Carmelo, ça disait « Je vous aime fort, mes puces ».
À ce moment-là, Déborah, elle craque, elle se met à pleurer. Donc on lui demande des explications et elle nous dit simplement qu'effectivement, le terme « puce », c'est le terme qu'il emploie toujours pour les désigner, elle et la petite fille, voilà, et leur petite fille à venir, tout simplement.
Seul Carmelo et la famille proche connaissent le sexe du bébé. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute, c'est bien Carmelo qui envoie les messages.
Donc tout laisse penser effectivement qu'à ce moment-là, il a besoin de prendre un peu le recul, tout simplement.
Il trouvait ça bizarre, mais il disait il est adulte, ils peuvent rien faire.
Si effectivement demain il décide de tout plaquer, de tout quitter, c'est son droit le plus naturel. On ne peut pas s'y opposer.
Les gendarmes demandent à Déborah de patienter jusqu'au lendemain pour voir si son compagnon se présentera sur son lieu de travail.
Et c'est une nuit où on n'a pas dormi, C'était les pleurs, l'inquiétude, à tourner en rond, et les heures passent et aucune nouvelle,
Le lendemain, toujours aucun signe de Carmelo.
Déborah nous appelle pour nous signaler que Carmelo ne lui a toujours pas donné de nouvelles, et qu'elle n'arrive toujours pas à le joindre, que son téléphone est toujours coupé.
Mais il y a plus inquiétant.
Carmelo, est parti avec rien. Il n'a pas de moyen de paiement, il n'a pas d'argent, il n'a pas de carte bleue, il n'a pas de chéquier.
Pas de permis, pas de carte d'identité. Alors elle dit, c'est pas possible, une personne qui part, elle prend quand même un minimum.
Alors, les gendarmes saisissent le parquet. Une information pour disparition inquiétante est ouverte. Et la téléphonie de Carmelo est passée au crible.
Cette téléphonie montre bien que Carmelo est sorti de l'usine Neuhauser, qu'il est parti du parking aux alentours de 22h.
Donc on voit bien que les relais qui déclenchent, c'est les relais qui mènent directement à son domicile.
Mais au bout d'un quart d'heure de trajet, il se passe quelque chose d'étrange.
Ce portable s'arrête à peu près à mi-chemin. Il reste là un certain temps à mi-chemin, puis il fait demi-tour.
Il repart en sens inverse dans la direction de Metz.
Ce qui surprend un petit peu. Ce qui surprend un petit peu parce que ce qui n'est pas du tout son itinéraire, quoi. Et à 1h50, le téléphone est définitivement coupé. Il ne sera plus jamais rallumé.
Pourquoi Carmelo a-t-il fait demi-tour cette nuit-là? Où allait-il? Aurait-il rejoint quelqu'un? Un événement va venir alimenter un peu plus le mystère. 24 heures après la disparition de Carmelo, les gendarmes reçoivent un bien étrange appel.
Un appel téléphonique d'une femme qui désire garder l'anonymat, qui tout simplement déclare comme quoi, effectivement, M. Castronovo aurait une maîtresse.
Aussitôt, les gendarmes tracent l'appel de cette femme et ils vont découvrir qu'il s'agit de l'épouse d'un collègue de Carmelo.
Très vite, on remonte effectivement sur cette personne, sur cette femme, qui nous dira simplement effectivement que c'était une rumeur qui courait au sein de l'entreprise et elle a voulu nous l'apporter, quoi, tout simplement.
La rumeur est-elle fondée? Carmelo a-t-il une maîtresse? Une chose est certaine, pour les gendarmes, la clé de l'énigme se trouve peut-être à l'usine, chez Neuhauser. Deux jours après la disparition de Carmelo, les enquêteurs se rendent sur son lieu de travail pour interroger ses collègues.
Et tous sont unanimes sur la qualité de Carmelo, tant professionnel qu'humaine.
Avec ses collègues, ça se passe a priori merveilleusement bien, quoi.
Ils aimaient bien Carmelo, surtout ses copains, ils adoraient Carmelo.
Carmelo, c'est un mec bien.
Tout le monde il adorait Carmelo.
Lui, il était le premier à aider, même, et il n'a jamais eu de problème avec mon fils. Lui, c'est pas ce style, lui. Hein.
On nous dresse un tableau à la limite idyllique de cette personne là, quoi. Il n'y a aucun travers, il n'a pas de problème pécunier, il semble très bien fonctionner dans son couple, je veux dire, tout semble beau pour lui.
La piste de la maîtresse est donc écartée. Mais en poursuivant leurs interrogatoires, les gendarmes apprennent une nouvelle information plus que troublante. À plusieurs reprises avant la disparition de Carmelo, un homme a appelé l'usine. Il voulait connaître son emploi du temps.
Les gendarmes, eux, se posent une question fondamentale. C'est que l'individu qui a appelé à une ou deux ou peut-être trois reprises pour connaître le planning de Carmelo, pourquoi n'a-t-il pas demandé à parler à Carmelo?
La personne qui appelle ne demande pas à parler à Carmelo alors qu'il est présent. Donc ça nous surprend. Nous, ça nous surprend.
Autre élément troublant, ces mystérieux coups de fil sont systématiquement passés le jeudi. Car c'est le jeudi que les employés reçoivent leur planning de la semaine. Et ce détail n'a pas échappé aux gendarmes.
Pour savoir que les emplois du temps changent le jeudi, il faut nécessairement avoir travaillé ou travailler à Neuhauser. Sinon, on ne peut pas connaître ce détail. L'interlocuteur connaît le fonctionnement de l'usine.
Alors, l'auteur de ces mystérieux appels à l'usine a-t-il quelque chose à voir avec la disparition de Carmelo? Tout le laisse penser, car le jour de la disparition du jeune homme, l'inconnu a passé un nouveau coup de fil.
Le jour de la disparition de Carmelo, il y a un nouvel appel téléphonique qui est passé, demandant si Carmelo est bien présent sur son poste, s'il est bien posté, et s'il quitte bien son poste à 22h, quoi.
Carmelo n'est pas parti volontairement. Cela semble maintenant une évidence. et en étudiant les SMS qu'il envoie régulièrement à sa compagne, l'évidence va devenir certitude.
Je suis venue avec une liste de SMS en disant que ces SMS-là, c'était pas lui.
Carmelo écrit avec les abrégés des jeunes des SMS. Ces mots sont quelquefois mal orthographiés. Alors que là, en l'occurrence, les SMS qu'elle reçoit sont des SMS parfaitement construits, des phrases parfaitement construites.
En fait, c'était exactement la même façon de parler de mon ex.
Souvenez-vous, lorsque Déborah rencontre Carmelo, elle est encore en couple. Et son ancien compagnon, un certain Kevin Weber, travaille justement dans la même entreprise que lui.
Kevin Weber, lui, il apprend cette relation, la relation de Déborah avec Carmelo Castronovo. Cette relation, il apprend très mal, donc effectivement, il est peut-être aigri parce qu'effectivement, elle a quitté pour un autre homme et ça, il a du mal à le supporter, quoi.
Kevin Weber s'en est-il pris à celui qui lui a volé sa fiancée un an plus tôt? Pour le savoir, les gendarmes se rendent chez lui, à Boulay, à une vingtaine de kilomètres de Metz.
Les gendarmes vont faire vraiment ce qu'on appelle une visite de courtoisie. Ils viennent prendre l'ambiance. Ils viennent voir à quoi il ressemble, où il vit. Et ils découvrent quelqu'un de tout à fait paisible. S'il a été amoureux de Déborah, en tout cas, il semblerait que ça lui soit passé, puisqu'il a retrouvé une autre femme.
C'est quelqu'un qui a refait sa vie, qui visiblement a oublié Déborah, qui a décidé effectivement de reprendre sa vie en main, qui s'est installé avec sa nouvelle compagne. Voilà, puis tout va bien pour lui, quoi. Ils envisagent de se marier, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, quoi.
Kevin Weber semble bien avoir tourné la page. Les enquêteurs écartent cette piste. L'enquête piétine, mais un nouveau rebondissement ne va pas tarder à se produire. Le 6 décembre 2013, deux jours après la disparition de Carmelo, son véhicule est localisé. Il est garé à Vallée-Bersin, à mi-chemin entre l'usine et le domicile de Carmelo. C'est un riverain qui signale sa présence aux gendarmes.
On arrive sur place et on constate que le véhicule est verrouillé. Donc on demande à la famille effectivement de nous ramener les clés, les doubles des clés, pour qu'on puisse l'ouvrir et vérifier, faire des vérifications à l'intérieur du véhicule, quoi.
Au moment où on voit la voiture, déjà je pleure. Je suis inquiète parce que le coffre était fermé. Donc quand elle n'était pas rentrée, on s'est dit son corps il est peut-être caché dans le coffre, quoi.
On demande à la famille de reculer un petit peu puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur, quoi. Et quand on ouvre le coffre, rien.
Il n'y avait rien du tout. Et lui, elle est où? C'est la voiture, elle est là, elle est où? Oui, je pensais plein de choses à la tête.
Les gendarmes procèdent alors à l'examen du véhicule.
Il n'y a rien qui dérange à l'intérieur. On voit qu'effectivement, il n'y a pas eu de traces de lutte, il n'y a pas de traces de sang, ou une quelconque trace qui pourrait nous dire effectivement que Carmelo a été violenté ou quoi que ce soit, quoi.
À première vue, donc, tout semble normal. Mais il y a deux détails qui vont tout de même attirer l'attention de Déborah.
Je vois déjà que le siège conducteur est avancé par rapport à ce que Carmelo était... Elle était déjà plus près, le siège.
Pour Déborah, quelqu'un d'autre que Carmelo s'est assis au volant. Quelqu'un de plus petit.
Et le truc qui m'a tout de suite frappé, c'est la carte grise avec la carte verte qui était posée sur le siège passager. Quand j'ai vu les papiers, je dis c'est pas normal, les papiers là ne sont pas rangés ici, ils sont rangés dans le pare-soleil.
Les gendarmes font des prélèvements ADN sur le volant et sur le levier de vitesse. Tous redoutent que quelque chose de grave ne soit arrivé à Carmelo.
On craint le pire. On craint le pire.
Parce que je savais qu'il était arrivé quelque chose. Je le sentais au plus profond de moi. Et j'espérais qu'on le retrouve vivant.
Moi, j'espérais qu'il pourrait être vivant.
Mais pour la famille et les enquêteurs, l'espoir sera de courte durée. Le 8 décembre 2013, Quatre jours après la disparition de Carmelo, un promeneur signale la présence d'un corps à moitié dévêtu. Il est à 800 mètres à peine du lieu où la voiture a été découverte. Les gendarmes se rendent aussitôt sur place.
On va s'approcher du corps et là, immédiatement, on se rend compte que c'est Carmelo, quoi. Il est couché sur le dos, sur le sol. Et on remarque qu'effectivement, son visage est très tuméfié, quoi. On voit très bien qu'il a été violenté, quoi.
Très vite, les premiers experts constatent des plaies à l'arrière du crâne qui semblent être la cause du décès.
Il a l'arrière du crâne littéralement défoncé. Il a reçu 16 coups d'objets contondants, mais a priori d'un marteau. Le tueur s'est véritablement acharné sur Carmelo.
Tous les coups sont portés à l'arrière de la tête, ce qui fait dire aux enquêteurs que Carmelo a été frappé de dos.
Ce qui rajoute quand même au côté noir, au côté sombre de toute cette affaire, quoi. Qu'il n'a même pas vu les coups venir.
En fait, le corps de Carmelo a été retrouvé à seulement 10 minutes de chez lui, caché derrière un talus au-dessus d'une aire de stationnement. C'est probablement là qu'il a été tué.
À l'embranchure de ce petit parking, on retrouve les lunettes de Carmelo. Sur le parking, on retrouve des flaques de sang correspondant à l'ADN de Carmelo et le corps est retrouvé un petit peu plus loin, derrière le talus.
Alors, pour les gendarmes, un premier scénario se dessine.
On sait que les coups mortels ont été portés sur ce petit parking et qu'ensuite le corps a été traîné jusque derrière le talus.
Carmelo a donc été tué hors de sa voiture. Voilà pourquoi aucune trace de sang n'a été retrouvée dans le véhicule. Que faisait le jeune homme ici? Pourquoi est-il sorti de son véhicule? Impossible de le savoir pour l'instant. Après une journée d'investigation, les gendarmes ont la terrible mission de prévenir la famille.
Il devait être, je crois, 18h ou 19h. Et puis d'un coup, on voit tous les gendarmes arriver. Et c'est là où on a compris.
Et les enquêteurs sont venus toquer chez moi à la porte. Je ne peux pas dire.
Le gendarme il m'a dit écoute, on a retrouvé Carmelo, il est mort. C'est bien lui qu'on a trouvé à Bidon.
Pour dire qu'il est décédé.
J'ai un couteau dans le cœur, hein. Là, c'est pas possible.
L'univers nous est tombé sur la tête, à tous. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. Un garçon si gentil, qui est... pourquoi lui?
Pourquoi il a pris, ça a pris avec mon fils, et qu'il n'a jamais rien fait à personne.
Et ma fille, qu'est-ce que je vais lui dire à elle? Elle a même pas eu le temps de le connaître. Alors que mon moment où j'attendais de l'accouchement, c'était que Carmelo puisse enfin tenir sa fille dans ses bras. Et bien, tous ces moments-là, ça a été envolé. Personne n'a... Enfin, voilà, ma fille ne connaît pas son père.
Au lendemain de la découverte du corps de Carmelo, une information pour meurtre est ouverte. C'est la section de recherche de Metz qui reprend l'affaire.
Nous reprenons tout à zéro. Nous entendons les témoins, les collègues de l'usine. On reprend la téléphonie, on fait tout de... on repart à zéro, en fait.
Déborah, la compagne de la victime, est à nouveau entendue. Face aux hommes de la section de recherche, elle répète qu'elle soupçonne Kevin Weber, son ex-compagnon. Et cette fois, elle donne des détails inquiétants sur l'homme avec qui elle a vécu pendant 7 ans.
Il est violent, mais verbalement beaucoup. Il rabaisse, en fait. Le truc est aussi que ça m'a fait... peur de partir, c'est parce qu'il me disait toujours « Sans moi, t'es rien, c'est grâce à moi que tu as tout aujourd'hui, si tu pars, tu vas retourner dans ta petite vie de misère. » Et puis en dernier, au moment où j'ai commencé à grandir, à un peu me rebeller, C'est venu des violences physiques.
Alors, qui est vraiment Kevin Weber? Et surtout, a-t-il véritablement tourné la page de son histoire avec Déborah, comme il l'avait prétendu aux gendarmes?
Si d'extérieur, ou en tout cas de façade, il peut essayer de donner l'image de quelqu'un qui vit la situation plutôt pas si mal, la vérité est tout autre.
Il a très mal vécu la séparation et il a très mal vécu le fait qu'elle parte avec... qu'elle le trompe avec Carmelo Castronovo, qui travaillait sur le même site que lui, quoi, dans la même entreprise, et avec un emploi supérieur, un rang supérieur. Carmelo Castronovo était chef de ligne.
Quand Déborah le quitte, c'est un véritable séisme. C'est-à-dire que toute sa vie s'effondre, il est extrêmement triste, il va sombrer dans un marasme total, il va perdre énormément de poids jusqu'à 25 kilos, il va faire une tentative de suicide, il va passer ses journées enfermé chez lui.
Et ce n'est pas tout. Lors de l'audition de Déborah, les enquêteurs apprennent l'existence d'un étrange contrat qui l'a lié à Kevin Weber.
Lorsqu'elle a vécu avec Kevin Weber, ils se sont paxés et lui a souhaité apporter une clause supplémentaire au pax. En cas de séparation, celui qui quitte l'autre devrait l'indemniser autour de 15 000 euros.
15 000 euros en cas de rupture de pax, chose quand même déjà, c'est gros quoi, et multiplié par 3 en cas de tromperie.
Et si jamais la séparation est d'une tromperie, on passe à 45 000 euros.
Le partenaire mettant fin au pax devra également verser une indemnité de 15 000 euros pour le préjudice. Cette somme sera multipliée par 3 en cas de tromperie.
Dans un premier temps, lorsque Déborah quitte Kevin et s'installe avec Carmelo, elle a totalement oublié les clauses du pax. Mais un an plus tard, elle va recevoir un courrier de son ex-compagnon, une injonction de payer.
Le premier courrier date du mois d'août, début août. Il me réclamait la somme de 45 000 euros pour la rupture du pax.
Je te demande de faire le nécessaire sous quinzaine afin de régler ce préjudice ou de me proposer un accord. Faute de quoi, la demande sera faite au juge des affaires familiales du tribunal compétent.
Déborah choisit d'ignorer ce courrier. Mais le 21 novembre, 15 jours à peine avant la disparition de Carmelo, Kevin Weber revient à la charge.
J'ai eu un autre courrier en disant que, vu que j'avais pas répondu au précédent courrier du mois d'août, qui lançait la démarche au tribunal d'instance de Sarreguemines pour obtenir cet argent.
Je t'informe ce jour qu'un courrier, dont je joins une copie, sera adressé au juge des affaires familiales qui fera l'ordonnance concernant le préjudice.
Du coup, pareil, on a eu le courrier et puis on a encore une fois ignoré parce qu'on s'est dit, s'il veut l'argent, il n'a qu'à faire sa procédure et puis c'est le juge qui décidera.
Mais pourquoi Kevin Weber a-t-il attendu un an après la rupture avant de réclamer cet argent?
Pour moi, l'objet des recommandés, c'était pas l'argent parce qu'il aurait pu faire les recommandés tout de suite.
Pour Déborah, le problème est bien plus profond.
Presque un an après, donc au mois d'août, en fait, ça correspond à la période où il a appris par le biais de quelqu'un, par Facebook, que j'étais enceinte.
Selon la jeune femme, Kevin Weber n'aurait donc pas supporté l'annonce de sa grossesse. Et il y a peut-être une explication à cela.
Il avait fait des examens médicaux et ça avait conclu à une stérilité.
On n'avait pas parlé à personne, on n'avait pas pu avoir d'enfant avec Déborah Houpin.
Et on peut imaginer que d'apprendre la grossesse de Déborah l'a rendu fou furieux.
Et donc on se retrouve avec deux mobiles, le mobile amoureux et la naissance d'un enfant entre Carmelo et Déborah qui pourrait être mal vécu par Kevin Weber, et le mobile financier avec cette dette de 45 000 euros, somme qu'il veut absolument recouvrir, et on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller pour récupérer cet argent.
À la lumière de ces nouveaux éléments, la section de recherche reprend la piste de Kevin Weber et retourne à l'usine pour éplucher son emploi du temps dans les semaines qui ont précédé le meurtre.
« On s'est très rapidement aperçu qu'il était d'abord en vacances, puis en maladie à compter du 2 décembre. Donc il n'était pas présent à l'usine.
Kevin Weber n'était donc pas censé être à l'usine le jour de la disparition de Carmelo. Pourtant, l'examen de sa téléphonie prouve qu'il était bien là.
Bien qu'il soit en arrêt maladie, il borne à Neuhauser le jour de la disparition de Carmelo.
Kevin Weber était en maladie, il n'avait rien à faire là-bas. Il n'avait rien à faire sur l'usine.
Alors, Kevin Weber attendait-il Carmelo? La suite des investigations montre en tout cas qu'il le surveillait de très près.
Cette même téléphonie va démontrer que les mystérieux appels du jeudi émanaient du téléphone de Kevin.
Souvenez-vous, ces fameux appels d'un inconnu qui se renseignait sur l'emploi du temps de Carmelo. Les gendarmes vont alors comparer la téléphonie de Carmelo à celle de Kevin Weber. Et cette fois, les résultats ne laissent plus de place au doute.
Ce soir-là, à partir de 22h, les deux téléphones déclenchent les mêmes bornes. Ce qui veut dire que les deux hommes étaient probablement ensemble ou se suivaient.
Les deux portables ont donc suivi le même itinéraire. Et pire encore, ils bornent au même moment sur le lieu du crime.
À Vallée-Bersin, la zone où on découvre le corps.
C'est-à-dire que là, vraiment, c'est accablant pour Kevin. Il est le suspect numéro un.
Les gendarmes décident donc d'interpeller Kevin Weber. Le 21 décembre 2013, Kevin Weber est placé en garde à vue à la gendarmerie de Boulay. Les enquêteurs prélèvent son ADN et l'envoient au laboratoire. Mais pour autant, l'homme ne se laisse pas impressionner.
Moi, je me souviens bien, il est resté froid, il était assez froid comme personnage. Il est resté froid en disant qu'il n'avait rien à voir avec les faits.
C'est une partie d'échec, hein, une garde à vue.
On ne lui dit pas ce que l'on a contre lui, on lui explique que nous le soupçonnons parce que nous avons des éléments à son encontre.
L'idée, en fait, si vous voulez, c'est de lui tendre des pièges. Donc d'abord, on lui demande ce qu'il faisait ce soir-là. Lui, il se méfie pas trop, il pense qu'il va s'en sortir, hein, donc il explique qu'il était chez lui.
Il nous déclare être resté au domicile avec sa compagne, et puis s'être couché comme d'habitude.
Ce que Kevin Weber ignore, c'est qu'au même moment, une autre équipe de gendarmes est à son domicile.
Donc simultanément, sa compagne est effectivement passée en garde à vue.
Évidemment, cette jeune femme va raconter autre chose.
Elle raconte que Kevin Weber n'était pas à la maison ce soir-là. Il a quitté le domicile vers 21h.
Kevin va lui dire qu'il a été rappelé par son chef à la boulangerie et qu'il doit retourner au travail pour faire des heures de module, des sortes d'heures supplémentaires à l'usine.
Kevin Weber a donc menti à sa compagne et a fortiori aux gendarmes.
Nous savons, nous, les vérifications effectuées, on savait pertinemment que Weber était en maladie depuis le 2 décembre. Il n'avait pas repris le travail.
Les enquêteurs tentent à nouveau de confondre le suspect.
Et on le met en opposition avec ce que dit sa compagne. Et là, il dit effectivement, voilà, j'ai menti, je ne travaillais pas.
Kevin Weber leur raconte qu'il a pris sa voiture et qu'il a roulé sans but précis.
Il va décrire tout un périple à travers divers villages des environs. Périple qui va le mener jusqu'en Allemagne, où il dit avoir acheté des cigarettes.
Le suspect a-t-il erré sur les routes comme il le prétend pour faire le vide dans sa tête? Cette nouvelle explication ne tient pas. Et les gendarmes en ont la preuve.
Ce trajet ne correspondait pas au relais téléphonique qu'avait déclenché son téléphone portable.
Ça prouve encore une fois qu'il a menti.
Et lorsqu'on lui demande de s'expliquer sur ce fait-là, il ne répond pas à la question, il ne dit rien.
Il ne va pas donner de réponse.
Il voit qu'il est bloqué.
Les policiers vont lui poser la question et il dira qu'il n'a rien à déclarer sur le sujet.
Les gendarmes sont face à un mur, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Car pendant que Kevin Weber s'enferme dans son silence, la garde à vue de sa compagne se poursuit à son domicile. La jeune femme est effondrée.
Elle se rend compte très rapidement que son concubin lui a menti.
Elle est paniquée parce qu'on lui annonce des faits extrêmement graves.
La compagne de Weber va alors livrer aux enquêteurs des informations très troublantes sur la nuit du meurtre.
Kevin est rentré à 2h du matin cette nuit-là. Il lui a demandé immédiatement de mettre son pantalon dans la machine à laver parce qu'il y avait des taches de boue.
Et il lui demande ce qui s'est passé. Et en fait, il explique qu'il a trouvé une biche morte sur la route et qu'il a dégagé de la route en la tirant dans le fossé et qu'il a sali le bas de son pantalon.
Des révélations pour le moins étranges. Et ce n'est pas tout.
Il nous explique qu'il a, par la suite, lavé ses baskets 4 ou 5 fois. Hein, et lui, prétextait qu'il les a lavées à plusieurs reprises, qu'elles sentaient mauvais.
Les enquêteurs sont de plus en plus intrigués. Quelle était l'urgence de procéder à cette grande lessive en pleine nuit ? Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise.
Quelques jours après la disparition de M. Castronovo, il est allé laver la voiture.
La voiture, le pantalon, les baskets. Pour les gendarmes, ce grand nettoyage est suspect. À la suite des déclarations de la compagne de Kevin Weber, les enquêteurs décident de perquisitionner le véhicule du couple. Le suspect assiste à la fouille de sa voiture. Les gendarmes espèrent bien trouver une preuve, des traces de sang par exemple, ou mieux encore, l'arme du crime.
Ils ne découvriront rien d'intéressant, rien qui puisse intéresser l'enquête, comme on dit, mis à part un gyrophare.
Ce gyrophare n'attire pas l'attention des enquêteurs, pour l'instant. En revanche, un incident va leur révéler le vrai visage de Kevin Weber.
La température était négative à ce moment-là, hein. Il faisait très froid. Nous avons fait les perquisitions dans les véhicules qui ont bien duré pendant 2 ou 3 heures. Et la compagne de Kevin Weber, qui assistait elle aussi aux perquisitions, hein, au bout de quelques heures, a fait un malaise. Kevin Weber, lui, était debout, de glace. Il n'a pas jeté un regard sur sa compagne. Aucune émotion. Il restait de marbre. On a cerné tout de suite le personnage. Il allait être dur à convaincre.
Mais Kevin Weber ne va pas tarder à déchanter. Car les résultats des prélèvements effectués dans la voiture de Carmelo, la victime, viennent de tomber. Et ils sont accablants.
Nous avions l'ADN de Kevin Weber dans la voiture de la victime. Le profil ADN de Kevin Weber était découvert sur le volant du véhicule de M. Castronovo, sur le pommeau de levier de vitesse du véhicule de M. Castronovo et également sur la poignée de porte intérieure côté gauche.
Les gendarmes confrontent le suspect à ses résultats. Mais Kevin Weber a là encore une explication.
Il se souvient l'avoir rencontré au mois de septembre 2013 hein, et Carmelo Castronovo souhaitait régler le fameux litige dû à la clause du Pax en lui donnant sa voiture.
Carmelo lui avait proposé de lui donner le véhicule en échange de ce dédommagement et pour ainsi dire comme solde de tout compte entre eux.
Kevin Weber raconte que lors de ce rendez-vous, il avait essayé la voiture.
Et donc avait touché et le volant et le levier de vitesse et les portières de ce véhicule. Et c'est comme cela qu'il explique qu'on ait pu retrouver son ADN dans la voiture.
Mais après avoir essayé la voiture, Kevin Weber aurait refusé l'arrangement.
La transaction n'a pas pu se faire puisque Kevin Weber va se rendre compte à l'examen de la carte grise du véhicule que le véhicule appartient au frère de Carmelo Castronovo et que donc Carmelo n'est pas en mesure de pouvoir céder ce véhicule.
Les gendarmes prennent acte de cette nouvelle version mais il n'y croit pas.
Déjà, sur l'idée même qu'ils aient pu se fixer un point de rendez-vous, c'est absolument aberrant.
Bah, il n'en a jamais parlé. Kevin Weber n'en a jamais parlé. Déborah n'en a jamais parlé. Personne n'en a jamais parlé de cette rencontre au mois de septembre.
Au terme de la garde à vue, sa version ne change pas. Il est toujours sur cette position.
Malgré ses dénégations, Kevin Weber est mis en examen et est incarcéré à la maison d'arrêt de Metz. Octobre 2016. 2 ans et demi après le meurtre de Carmelo, le procès de Kevin Weber s'ouvre à Metz. Jusqu'ici, l'homme a toujours nié être l'auteur des faits. Mais le premier jour des débats, il réserve une surprise de taille à l'assistance.
Le président pose la question à Kevin s'il a quelque chose à dire. Et puis c'est là où il se met debout et qui dit « J'ai jamais pu en parler avant, mais aujourd'hui je vais tout dire, c'est moi qui l'ai fait. »
Et il dit « La famille a le droit de savoir. » Donc nous on se dit bah, « Tant mieux, il va pouvoir expliquer. »
Les parents, les proches et surtout Déborah se disent que c'est enfin le bout du tunnel.
On aimerait quand même savoir la vérité.
Parce qu'il n'y a rien de pire pour les victimes que de ne pas savoir ce qui s'est passé.
Pourquoi ? C'est ça en fait, pourquoi ?
Mais la famille va très vite déchanter. Car une fois de plus, Kevin Weber va donner sa version des faits.
Il va expliquer qu'avec Carmelo, il s'était donné rendez-vous sur le parking, le fameux parking où on retrouvera ensuite le corps de Carmelo.
Et qu'à ce rendez-vous, eh bien, Carmelo est arrivé armé d'un marteau.
Et il explique que lui se serait senti menacé.
Et lorsqu'il a vu ce marteau, les choses se sont bousculées dans son esprit, il n'a pas réfléchi, il a saisi le marteau et il a frappé M. Castronovo au niveau du crâne.
Cette nouvelle version de Kevin Weber scandalise la famille Castronovo.
Il essaie de nous faire croire que c'est Carmelo qui était sorti pour l'agresser avec un marteau à la main.
Ah ben là, moi j'avais, si vous voulez aller vers lui, le tuer à lui, à part. Je raconte plein de conneries, mais c'est pas possible.
Carmelo, il avait pas de marteau dans le coffre. Il avait juste une manette où il y a des clés pour réparer une voiture, quoi. Mais il avait pas de marteau.
Kevin Weber se serait donc senti menacé. Et ses avocats vont expliquer pourquoi leur client, ce soir-là, s'est acharné sur la victime.
Je pense que le geste de Kevin Weber est tout sauf mûr et réfléchi.
Lorsqu'il va porter le premier coup, il le dira, tout est remonté dans sa tête, toute cette colère, toute cette tristesse est remontée.
C'est manifestement un geste passionnel, le nombre de coups le prouve, la violence de ces coups le prouve aussi. On le sait dans les crimes qui sont dits passionnels, la multiplicité des coups est presque l'une des signatures du crime passionnel.
Il n'y a pas, dans cette affaire, de préméditation du crime.
La préméditation, c'est là tout l'enjeu du procès. Kevin Weber, jaloux que sa compagne l'ait quitté, avait-il ce soir-là l'intention de tuer Carmelo ? Pour les parties civiles, tout le laisse penser.
On sait qu'à partir du mois de novembre, Kevin Weber téléphone régulièrement à Neuhauser pour connaître l'emploi du temps de Carmelo Castronovo. On sait qu'il doit le suivre en voiture pour connaître précisément quel chemin il utilise pour rentrer chez lui. Il l'a traqué, il l'a suivi. Il y a donc ce premier élément qui permet de dire qu'il y a eu préméditation.
Alors, si Kevin Weber a prémédité son geste, comment a-t-il contraint Carmelo à s'arrêter sur ce parking en pleine nuit ? Et c'est le gyrophare, souvenez-vous, retrouvé dans son véhicule qui peut donner la réponse.
On peut très bien s'imaginer qu'avec ce gyrophare, il a pu mettre en œuvre une stratégie.
Lorsqu'il est sur ce petit morceau de route très isolé et surtout pas éclairé, il enclenche le gyrophare un peu comme dans un contrôle de police. Il fait un appel de phare et il oblige Carmelo à se garer sur le bas-côté, À ce moment-là, Kevin sort du véhicule.
Kevin Weber a fait partie de la sécurité civile, donc il avait des blousons.
Et Déborah va les confirmer et va expliquer qu'effectivement, il était en possession de différents vêtements d'agents de sécurité et qu'il les portait régulièrement.
Kevin Weber aurait alors demandé à Carmelo de sortir du véhicule en faisant croire à un banal contrôle routier. Mais une fois dehors, ce dernier l'aurait reconnu et aurait tenté de remonter dans sa voiture.
Et là, à ce moment-là, il le frappe à plusieurs reprises, à coups de marteau derrière la tête.
Kevin Weber portera au total 16 coups de marteau. Après avoir abandonné le corps de Carmelo, il va tranquillement s'emparer de son téléphone. Déborah ne s'était donc pas trompée. Cette nuit-là, ce n'était pas son fiancé qui lui envoyait des SMS. Même s'il n'a pas été prouvé, ce scénario va convaincre les jurés qui vont retenir la préméditation. Au terme de 4 jours de procès, Kevin Weber est condamné à 25 ans de prison ferme pour l'assassinat de Carmelo Castronovo. Il n'a pas fait appel de ce verdict.